On entre dans le dernier quart d'heure de ce 6-9 et on commence tout de suite avec Jean-Philippe Ballas pour la revue de presse. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour à tous.
Vous nous parlez d'un souvenir ce matin.
Oui, il lui en a fallu du temps, beaucoup de temps avant de revenir ici. 77 ans pour être précis, il en a 98 désormais, mais il laisse de côté son fauteuil roulant parce qu'il veut marcher, oui marcher, se tenir debout sur cette plage de Normandie. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui suit dans le sable les pas du soldat Harper Coleman, 4e division d'infanterie américaine, de ceux qui ont débarqué le 6 juin 1944 et qui jamais plus n'ont voulu en parler. Le silence, de retour à la maison, presque un sujet tabou. Et puis, ces dernières années, les premiers mots échangés avec son fils et le besoin finalement de retraverser l'Atlantique, faire le voyage en famille. Et voici Monsieur Coleman dans un bateau au large de Utah Beach. On lui donne un bouquet de roses, il les lance une à une pour les camarades qui ne sont plus là. Une petite fille s'approche pour lui dire merci. Le vieil homme lui prend la main. « Ce jour-là, j'ai juste fait ce qu'on m'a demandé de faire. » Alors oui, je sais, les vétérans, on en parle tous les ans à cette époque, mais il faut les écouter, vraiment. Après tout, ils ne sont plus si nombreux. Et elle aussi, on l'écoute, parce que elle aussi a connu ce temps-là. 97 ans et toujours ultra résistante. Madeleine Riffaut est dans Libération ce matin. Portrait d'une femme de lettres, absolument libre, au destin multiple, au caractère bien trempé. Madeleine qui tire sur son cigarillo et sirote un verre de whisky japonais. Il est 14h. Madeleine qui râle parce qu'elle n'a pas trop envie d'être photographiée. Et Madeleine qui au début n'a pas vraiment compris pourquoi on voulait raconter son passé en bande dessinée. Elle sort ces jours-ci aux éditions Dupuis. Sauf que la vie de Madeleine Riffaut est une succession de courage. Reporter en Indochine, en Algérie, au Vietnam, elle fut aussi surtout de ces jeunes Français qui refusèrent pour de vrai l'occupation nazie. Longtemps, elle n'a pas voulu dire, tiens, comme le vétéran américain, parce qu'il ne fallait pas s'épancher, ça ne se fait pas, ne jamais pleurer sur l'état de son pays ou sur son propre sort, aucune cause n'est jamais perdue. Les principes de Madeleine Riffaut, qui acceptera finalement de témoigner à la demande d'autres résistants, Raymond et Lucie Aubrac. Aujourd'hui, elle se souvient des fusillades, des arrestations, des passages à tabac, des attaques de train, et s'énerve parce que l'autre jour, un jeune lui a dit « J'ai fait mon premier acte de résistance, j'ai fait la fête avec des copains, sans masque ni rien. » Mais dis donc mon petit, c'est pas un acte de résistance ça, a rétorqué Madeleine Riffaut. C'est suicidaire et c'est même méchant pour les autres qui n'y sont pour rien.
Jean-Philippe, vous avez trouvé une autre femme puissante dans le journal.
À sa façon exemplaire et dans un tout autre univers. Une légende de l'athlétisme rencontrée par l'équipe ce matin. Alison Felix, l'américaine, aux 11 médailles olympiques, record absolu. Vous l'avez peut-être vue à Tokyo et elle participe demain au meeting de Paris sur le 400 mètres. Alison Felix, donc, championne engagée, devenue farouche défenseur du droit des femmes. Depuis ce jour de 2019 où son équipementier Nike décide de réduire de 70% le montant de son contrat. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, Alison Felix est devenue mère d'une petite fille, synonyme pour beaucoup d'une baisse obligée de performance. Alors, la championne signe une tribune remarquée dans le New York Times. Si elle-même subit ce genre d'épreuve, alors qu'en est-il pour les autres femmes ? Finalement, Nike fera machine arrière. Aujourd'hui, à 35 ans, Alison Felix continue de courir et de se battre pour la cause. C'est l'héritage qu'elle veut laisser. L'une de ses photos les plus célèbres la montre avec ses 11 médailles autour du cou, la cicatrice d'une césarienne en dessous. Et les deux, dit-elle, vont parfaitement ensemble.
Elles aussi sont exemplaires à leur manière.
Elles s'appellent Frédéric, Geneviève, Émilie, Caroline, des retraités, des trentenaires, des qui cavalent et d'autres qui vous prennent la température. Elles ne sont pas soignantes, mais elles sont là, toujours là, à faire tourner la boutique, comme on dit. Des centres de vaccination, en l'occurrence. C'est la Voix du Nord ce matin qui rend hommage aux bénévoles, à celles et ceux dont on causait beaucoup au début, un peu moins aujourd'hui. Alors pourquoi ne pas les remettre à la une ? Tous ces gens venus prêter main forte, remplir tout simplement mon devoir de citoyen, résume Pascal, assis derrière sa table, les bras chargés de QR code. Venir ici est une grande joie, sourit Yvette, qui organise les files d'attente et qui, au passage, en a oublié de partir en vacances. Au fil du temps, au gré des gymnases, ce sont presque deux petites familles qui sont nées, solidaires. À leur façon, elles accélèrent la marche de la vaccination, constate le journal. Participer à la marche de la société. Et il y a un peu tout ça aussi dans ce métier dont on parle peu, mais qui peut sauver des mômes. Les familles d'accueil, ce matin dans le Figaro, maillon essentiel de la protection de l'enfance, mais une vocation en voie d'extinction, s'inquiète le journal. Il en reste 38 000 aujourd'hui de ces assistants familiaux, plutôt des assistantes d'ailleurs, qui reçoivent contre rémunération des mineurs retirés à leurs parents, mais qui pourraient disparaître tout simplement d'ici une dizaine d'années. 80% des effectifs bientôt à la retraite, pas ou peu de relève à l'horizon. Il faut dire que le métier n'est pas simple. Témoignage de Philippe, 48 ans, qui vous raconte des gamins abîmés, parfois violents ou handicapés. Beaucoup d'enfants auxquels on s'attache et puis qui partent. Un soir, on se retrouve avec une chambre vide. Ça laisse des traces. On n'est pas toujours bien accompagné, regrette Philippe. On ne peut pas faire ce métier sans aimer. Oui, décidément, il y en a du courage dans vos journaux ce matin. À tel point que l'on peut se demander, sommes-nous si fragiles? C'est la couverture de Philosophie Magazine qui note ce paradoxe. Nous passons nos vies à évoquer nos lignes de faille, les risques qui nous entourent. N'empêche, la pandémie montre que nos organisations complexes ont plutôt tenu le coup. Pas d'effondrement, malgré le vertige. Vertige d'une nuit d'été, racontée par Arthur Lockman. Vous savez, quand on s'allonge dans l'herbe et qu'on regarde le ciel, quand on se perd littéralement dans les étoiles. Le scintillement lointain des astres et le frisson sur la peau se mélangent, un soupçon d'angoisse et un reste discret de sublime. Lundi, vous retrouverez l'excellent Claude Askolovitch pour la revue de presse.
Et vous, on vous retrouvera le week-end prochain. Merci Jean-Philippe Labasse. Pourquoi? Je sais pas, j'avais envie
de... Vous l'aviez dans le désordre.
Je l'avais dans le désordre.
France Inter.